Votre éminence, cher archevêque Gaville, recteur de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Votre excellent, cher évêque Paul de Trachia, votre excellent, cher évêque Michel de Claudiopolis, et votre révérend, cher proto-presbytère Boris, doyen émeritus de l'Institut, et cher Archimandrite Yov, doyen, membre de la faculté, cher ami. C'est avec beaucoup d'émotion que j'exprime ma reconnaissance profonde pour l'honneur que vous avez conféré sur moi en me remettant aujourd'hui le grade du docteur honoris causa dans l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Oui, c'est un honneur, mais aussi pour moi une grande joie. Depuis longtemps, plus que 50 ans, même avant ma réception dans l'Église orthodoxe, je suis toujours plein d'admiration pour l'essor et la renommée de l'Institut, pour sa tradition théologique, pour son œuvre pastorale, pour son témoignage inestimable dans tout le monde chrétien. Je rappelle les noms des éminents théologiens qui ont enseigné ici, surtout le père Serge Bulgakov, l'évêque Cassien, le père Alexei Kniazev, le père Georges Florovski, l'archimandrite Cyprien, et beaucoup des autres. Et je vois que vraiment cette tradition théologique, ce témoignage continue avec une nouvelle génération de professeurs nés dans l'émigration ou occidentaux de souche. Je suis heureux, ou plutôt je suis fier, de me compter membre avec eux de l'Institut Saint-Serge. Et je voudrais exprimer ma reconnaissance pour les mots que mon cher ami, le diacre Nicolas Loski, a dit, même si je suis tout à fait indigne de beaucoup des choses que vous avez dites. Et je me souviens de notre première rencontre comme c'était hier. Et je me souviens aussi des jours que j'ai passés dans l'appartement de votre père Vladimir, votre mère Madeleine, de bienheureuse mémoire. Mon sujet cet après-midi est l'obéissance et liberté, selon Marc le Moine et Saint Simeon, le nouveau théologien. Il existe une histoire bien connue dans le Géronticon, au sujet d'un moine qui avait reçu l'ordre de son abat de planter un bâton sec dans le sable à l'extérieur de sa cellule et de l'arroser chaque jour. Chaque soir, il sortait pour chercher l'eau, mais la source était si éloignée qu'il ne revenait qu'au petit matin. Pendant 3 ans, il accomplit cette tâche qui paraissait sans aucune utilité. Puis, un jour, le bâton se couvrit de quelques feuilles et produisit un fruit. Là-bas, cueillit le fruit, le pria à l'église et invita les moines à en manger en disant « Prenez, mangez, du fruit de l'obéissance. Il existe plusieurs histoires de ce type dans les sources monastiques primitives qui soulignent comment le disciple doit se soumettre à son père spirituel avec une obéissance fidèle et incontestable. L'enseignement de saint Antoine d'Égypte est typique. Je connais des moines qui, après bien des labeurs, sont tombés et sont allés jusqu'à perdre la raison pour avoir mis leur confiance en leur propre œuvre et récusé le commandement de celui qui a dit « Interroge ton père ». Et il te renseignera. Si possible, le moine doit faire confiance au vieillard et le rendre compte de tous les pas qu'il fait et de toutes les gouttes d'eau qu'il boit dans sa cellule pour savoir s'il ne pêche pas en cela. De plus, ce type d'obéissance n'est pas uniquement demandé à ceux qui sont soumis aux vœux monastiques. Souvent, le Géronta ou le Père spirituel, et de même la Gérontissa ou la Mère spirituelle, puisque ce ministère peut aussi être exercé par des femmes, offre également une direction à des laïcs qui vivent dans le monde. Ce fut le cas, par exemple, au XIXe siècle en Russie, de saint Séraphim de Sarov et des Starci de Optina Pustin. Et au XXe siècle, des anciens tels que le père Cleopa de Sihastria, en Roumanie, ou de père Amphiloque de Patmos, que j'ai connu personnellement, ou de père Porphyrios de Oropos, en Grèce. Cette insistance radicale sur l'obéissance pose cependant une difficulté fondamentale. Comment pouvons-nous réconcilier une telle obéissance avec la compréhension chrétienne de la liberté? Le Christ est venu nous rendre libres. Selon lui, la vérité fera de vous des hommes libres. Saint Paul parle de manière similaire. « Ne suis-je pas libre ?» il dit. « Le Christ nous a libérés. » La valeur de la liberté est réaffirmée de manière éloquente par Fyodor Dostoïevski dans son récit du grand inquisiteur et par Nicolas Berdiaïev dans son autobiographie. « J'ai toujours su, écrit ce dernier, que la liberté engendre la souffrance, alors que le refus d'être le libre diminue la souffrance. La liberté n'est pas simple, comme ses ennemis et ses calomniateurs prétendent. La liberté est difficile. Elle est un lourd fardeau. Les hommes, comme l'a montré Dostoïevski avec une telle puissance, renoncent souvent à la liberté pour simplifier leur sort. Mais toutefois, Berdiaïev insiste que sans la liberté, nous ne sommes pas vraiment humains. L'homme provient de la liberté, il dit, et paraît vers la liberté. La liberté est la source primordiale et la condition de l'existence. Dieu n'est vraiment présent et actif que dans la liberté. Comment devons-nous équilibrer la contradiction apparente qui existe entre l'obéissance et la liberté. Voyons ce soir comment ce problème a été résolu par deux témoins représentatifs de l'Orient chrétien, Saint Marc le Moine et Saint Siméon le Nouveau théologien. Marc le Moine, aussi connu comme Marc l'Ascète ou Marc l'Ermite, est une figure énigmatique qui vécut probablement à l'époque du Concile d'Éphèse, 431, et qui pourrait avoir habité en Asie mineure ou dans la région d'Antioche. De la vie de Siméon, nous connaissons bien plus de choses. Né autour de 959 et mort en 1022. Il fut pendant près de 25 ans l'abbé du monastère de Saint-Mamas à Constantinople. Si on me demande pourquoi j'ai choisi deux auteurs séparés chronologiquement par près de 6 siècles, la réponse est qu'il existe en fait un lien direct entre les deux. Lorsque Siméon, le nouveau théologien, était encore un laïc, âgé d'une vingtaine d'années, son père, Siméon le Stoudite, lui prescrit de lire le livre de Marc le Moine, La loi spirituelle, et ce court traité, comme nous allons bientôt le découvrir, eut une influence profonde et durable sur le jeune Siméon. Une des caractéristiques les plus frappantes dans la théologie ascétique de Marc le Moine, le premier des deux auteurs que nous avons choisis, est l'importance qu'il accorde à la liberté de conscience. Le mot synidicis, conscience, apparaît environ une vingtaine de fois dans ses écrits. Comme il affirme dans son œuvre la plus connue, La loi spirituelle, les conseils du prochain sont souvent utiles, mais rien ne convient plus à chacun que son propre jugement. Si tu cherches la guérison, sois attentif à ta conscience. Tout ce qu'elle te dit, fais-le, et tu y trouveras ton bien. Et encore, les secrets de chacun, Dieu les connaît, et aussi la conscience. Voilà les moyens à prendre pour se corriger. Ce sont là des affirmations surprenantes si on tient compte du fait que Marc écrit pour un auditoire monastique. Plus loin dans la même œuvre, parlons de la nécessité de pratiquer Theoriatis Synodicios, la contemplation de la conscience. Il définit la conscience comme physici vivlos, le livre de la nature, ou un livre naturel. C'est lui, il dit, que ne persévère pas dans la contemplation de la conscience, n'accepte pas non plus de souffrir corporellement pour la piété. La conscience est le livre de la nature. Celui qui le lit assidûment reçoit l'expérience du secours divin. En dessinant la conscience comme le livre de la nature, Marc suggère une parallèle entre l'écriture et la conscience. Il y a, d'un côté, la loi écrite, gravée dans le livre de la Bible, et de l'autre, il y a ce que Marc désigne comme étant la loi spirituelle, ou la loi de la liberté, inscrite dans le livre naturel de notre conscience. Saint Ephrem, le Syrien, envisage une comparaison similaire, bien que quelque peu différente, entre les deux livres de l'écriture et de la nature. Il dit, « Regarde et vois combien la nature et l'écriture sont étroitement liés. Louange à toi, Seigneur de la nature, gloire à toi, Seigneur de l'écriture. Où que tu tordes les yeux, tu trouveras le symbole de Dieu. Où que tu lises, tu trouveras ses figures. » Ephrem, il est vrai, ne mentionne pas la conscience dans ce contexte, mais a à l'esprit le monde de la nature qui nous entoure, alors que Marc pense au monde de la nature qui est caché à l'intérieur de notre cœur. Mais leurs approches sont complémentaires. La description que Marc fait de la conscience comme un livre naturel ressemble à la conception qu'a Saint Jean Chrysostome de la conscience en tant que loi naturelle, physikos nomos. On s'y parle, Saint Jean Chrysostome, de la conscience. En appelant la conscience un livre naturel, Marc s'accorde clairement avec Chrysostome pour dire qu'elle constitue une partie intégrale de la nature humaine, créée à l'origine par Dieu. Obscurcie par la chute, la conscience est restaurée par la grâce baptismale, comme Marc l'affirme. La grâce, il dit, a été secrètement donnée à ceux qui ont été baptisés en Christ. Mais elle agit dans la mesure où nous pratiquons les commandements. Elle ne cesse de nous aider dans le secret, mais il dépend de nous de faire ou de ne pas faire le bien selon notre pouvoir. La grâce commence par éveiller divinement la conscience. D'où vient que même ceux qui ont fait le mal, après s'être repentis, sont devenus agréables à Dieu. Nous touchons ici au thème central de la théologie ascétique de Marc le Moine. Le vrai but de la vie chrétienne, tel qu'il le demande, est de découvrir la présence du Christ et du Saint-Esprit qui demeure en nous et qui nous ont été conférés à notre baptême. Dès le moment de notre baptême, la deuxième et la troisième personne de la Sainte Trinité prend leur demeure dans ce que Marc appelle l'endroit le plus intime, caché et sincère du cœur. Et dès lors, la grâce divine ne cesse d'être active en nous. Cependant, au début, nous n'avons l'expérience de sa présence que de manière inconsciente ou mystique. mysticos. Ce n'est qu'en accomplissant les commandements que nous devenons conscients progressivement de la présence baptismale du Christ et de l'Esprit en nous d'une manière qui est active, énergose et claire, énergose, avec une pleine assurance consciente, en pace estice que pluriforia, pour employer l'une des phrases caractéristiques de Marc. C'est une phrase qui est associée plus particulièrement au mouvement messélien. Marc étant habituellement classé comme auteur anti-messélien, n'est en réalité pas si hostile au messalianisme. Et le messalianisme n'est pas tout à fait hérétique. Écouter notre conscience est alors précisément devenir conscient de l'action de la grâce baptismale en nous. On trouve une compréhension similaire de la conscience chez un jeune contemporain de Marc, Abba Isaïe de Gaza, qui parle de la conscience parvenant à la libération en nous, de telle sorte qu'une union s'établit entre notre conscience et nous. On voit que Marc n'est pas tout seul d'insister sur la conscience. Il y a aussi des autres auteurs monastiques à cette époque, qui ont parlé d'une façon parallèle. Lorsque Marc affirme, dans les paroles déjà citées, que rien ne convient plus à chacun que son propre jugement, cela signifie-t-il pour autant qu'il n'attache très peu ou pas du tout de valeur à la direction d'un père spirituel? En fait, ce n'est pas le cas. Mais il est très prudent d'établir des limites au ministère du guide spirituel. Mais il ne rejette pas certainement l'importance de son rôle. On parle on peut voir cela, par exemple, dans la lettre que Marc a écrite à son disciple Nicolas. Là, il donne des conseils qu'on ne doit pas être isolé si on veut suivre la voie spirituelle. C'est nécessaire d'avoir des contacts réguliers avec des hommes dotés de connaissances gnostiquis andrasi. Mais en même temps, quand il donne du conseil, par exemple à Nicolas, de ne pas boire du vin ou même de boire très peu de l'eau, il souligne qu'il ne cherche pas à imposer un joug de nécessité, jugon ananchis, à son disciple. Mais il dit, en titre de plan et de mon méthode, nous te faisons cette exhortation en toute charité. Nous te donnons un conseil, mais en laissant à ton choix autonome, qui aftexusiu sud proeresse, de faire ce que tu veux. Le refus de Marc d'imposer un joug de nécessité est pleinement en accord avec l'approche de Saint Barsanouf de Gaza, début du VIe siècle, à quelqu'un qui avait demandé une règle de vie, canon. Le grand vieillard répondit, « Ne désire pas de commandement, car je ne veux pas que tu sois sous la loi, mais sous la grâce. À un autre, Barsanouf écrit, « Tu sais que jamais nous n'avons imposé de lien d'aisement à quelqu'un. » Et de nouveau, « Ne force pas la volonté, mais sème dans l'espérance. » En effet, notre Seigneur n'a jamais contraint personne, mais il annonçait l'Évangile, et celui qui voulait écouter. Chez Marc, comme chez Barsanouf, le respect pour l'autorité du Père spirituel va main dans la main avec la liberté de conscience du disciple. Mais il dit que là-bas a une responsabilité de dire la vérité à ses disciples. Mais il ajoute, si le disciple ne fait pas obéissance, le Père spirituel ne doit pas se laisser entraîner dans une dispute acerbe. Philonikia, ni essayer d'employer la contrainte, la force, mi viazu, il dit. Surtout, le guide spirituel ne doit jamais se mettre en colère. Si tu as charge d'enseigner, dit Marc, et si on ne t'écoute pas, afflige-toi en esprit, mais ne te trouble pas ostensiblement. Si tu te laisses troubler, tu subiras la tentation d'agir de la même façon que lui. Lorsqu'il part à un groupe, l'ancien devra éviter d'accuser une personne en particulier, mais parler plutôt en termes généraux, laissant la liberté à chacun d'appliquer ses paroles à soi-même, selon ta propre conscience. Kata sinidisin. Dans tout cela, Marc le Moine montre une discrétion admirable et une modération, gardant, se faisant un équilibre entre la liberté et l'obéissance. Avec une sensibilité authentique, il permet pour notre profit à la fois d'être guidé par un père spirituel et d'avoir l'obligation d'écouter la voix de Dieu en notre propre conscience. L'un n'exclut pas l'autre. Je doute grandement que Marc eût été d'accord avec l'affirmation que nous trouvons dans le Géronticon. Si quelqu'un, on trouve cela, a foi en un autre, et qu'il se livre à lui en pleine soumission, il n'a pas besoin d'être attentif au commandement de Dieu, mais seulement d'abandonner à son Père toutes ses volontés. Marc n'est pas d'accord. Cela ferait du Père spirituel un substitut de Dieu. Or, cela n'est précisément pas de cette façon que Marc entend le rôle de là-bas. Le rôle du guide, du point de vue de Marc, est de ne point priver le disciple de toute responsabilité morale, mais au contraire, de lui permettre d'attendre la véritable liberté de choix en sa propre conscience devant Dieu. les paroles du Père spirituel ne remplacent pas la voix de Dieu qui est en nous. Mais au contraire, le but du Père spirituel est de nous aider à entendre directement et personnellement cette voix. Le Père spirituel, pour ainsi dire, n'est pas un législateur, mais quelqu'un qui initie, un initiateur. Non pas un gouverneur ou un officier qui commande, mais un infirmier ou un jardinier. Non pas un autocrate, mais une sage-femme. Il ne se tient pas entre le disciple et le Christ, mais tel un huissier, un usher, c'est bon? Un huissier. Il ouvre la porte et nous mène vers la présence divine. Selon les paroles de Max Turian, il est simplement l'ami de l'époux. Il n'est pas l'époux lui-même. Passons de la deuxième à la troisième personne de la Trinité, nous pouvons dire, le vrai directeur est toujours le Saint-Esprit. Nous tournons maintenant, plus brièvement, de Saint-Marc le Moine à Saint-Simeon le nouveau théologien. Nous sommes frappés au début par le rôle décisif qui a eu le traité La loi spirituelle de Marc sur le développement spirituel de Simeon. Dans sa catéchèse autobiographique 22, parlant de lui-même à la troisième personne, Simeon raconte comment, lorsqu'il était encore laïque, son ancien, Simeon le studite, lui donna le livre de Marc à lire. De ce livre, le jeune Simeon retint en son cœur trois phrases en particulier. Et la première de celles-ci était précisément le passage cité précédemment où Marc parle du besoin d'écouter notre conscience. Si tu cherches la guérison, sois attentif à ta conscience. Tout ce qu'elle te dit, fais-le, et tu y trouveras ton bien. Toutefois, comme il apparaît clairement plus loin, en continuant de lire la catéchèse 22, l'insistance sur l'écoute de notre conscience n'exclut aucunement la dépendance à un père spirituel. Au contraire, lorsque Simeon reçut sa première vision de la lumière divine, il aperçut également son ancien, Simeon le studite, se tenant debout d'une manière paradoxale, tout près du rayonnement incréé. De là, le jeune Simeon comprit les grands secours que lui avait procuré l'intercession de ce saint. C'est précisément ici qu'on en peut voir Simeon le studite comme accomplissant le rôle du Père spirituel que nous venons de décrire. Celui d'un initiateur, d'une sage-femme et d'un huissier. Le studite ne dit pas à son disciple, « Puisque tu m'as pour guide, tu n'as pas besoin de voir toi-même la lumière. Je serai tes yeux, dépendent de moi. » Bien au contraire. Il ouvre les yeux spirituels du jeune Simeon, lui permettant de voir par lui-même. Un point particulièrement intéressant est l'insistance, ici et ailleurs, placée par le nouveau théologien sur l'intercession de son Père spirituel. Le Père spirituel fait bien plus que d'enseigner à son disciple par des mots. Il prie également pour son disciple. Et ses prières sont incomparablement plus importante que toute pensée verbale. Je me souviens comment, il y a plusieurs années, un de mes amis alla voir le célèbre Géronte Athonite, Père Païsios. À la fin de leur entretien, mon ami dit, « Père, puis-je vous écrire de temps en temps ?»« Non, répondit Père Païsios, ne m'écris pas, mais je prierai pour toi. » Mon ami ressentait cela comme si il le repoussait. Voyant cela, un autre moine qui était à l'oppression lui dit ultérieurement, « Ne sois pas triste parce que le Géronte t'a dit de ne pas lui écrire. Son conseil est précieux, mais ses prières sont encore meilleures. En promettant de prier, Père Païsios avait offert non pas ce qu'il avait de moins, mais ce qu'il avait de plus. Et ailleurs, oui, Simeon, le nouveau théologien, insiste sur les prières de son Abba, le Studite. Et il insiste aussi sur la manière dans laquelle Simeon, le Studite, assister les autres, même par sa présence. Il y a une histoire qui est racontée dans le Guéranticon au sujet de saint Antoine le Grand. Un moine avait l'habitude de lui rendre visite chaque année, mais ne lui avait jamais posé de questions sur quoi qu'il se soit. Lorsqu'une fois, Antoine lui dit, « Vous pouvez me poser une question si vous voulez. » L'autre lui répondit, « Il me suffit seulement de te voir, mon père. Seulement de te voir. » Et c'était la même chose entre le nouveau théologien et son père spirituel, le Studite. Le nouveau théologien insiste sur l'immense compassion, sympathia ametricos de son père. C'est cela que le père spirituel peut offrir. Sympathia, une compassion pleine d'amour. Ce que le Starets offre à son disciple n'est pas principalement des règles ou des paroles de conseil, mais une relation personnelle, une relation d'amour mutuel. Et à cause du caractère directement personnel de cette relation, la liberté profonde du disciple est sauvegardée. Oui, Simeon le nouveau théologien attache en même temps une profonde importance au Père spirituel. En voyant votre Père spirituel, il dit, croyez apercevoir le Christ. On ne doit même pas prendre une gorgée d'eau, à moins que son Abba ne te dise bois. on ne doit jamais contredire votre père spirituel. Alors, une telle obéissance qui ne pose aucune question semble laisser peu de place pour quelque liberté de conscience dans l'enfant spirituel. Mais aussi, même s'il insiste qu'on ne doit pas faire rien sans le Père spirituel, le nouveau théologien insiste aussi, avec la plus grande emphase, qu'on doit avoir une expérience de la présence de l'Esprit-Saint qui est directe et personnelle. On ne peut pas être un chrétien de deuxième main. Dieu a des enfants, mais il n'a pas des petits-enfants. On doit sentir la présence de l'Esprit, dit Simeon, d'une manière bien perceptible et consciente, gnostos que evestitos. Aussi, il affirme sans compromis dans ses hymnes. Ne dites pas qu'il est impossible de recevoir l'Esprit divin. Ne dites pas que sans lui, il est possible d'être sauvé. Ne dites donc pas qu'on peut le posséder sans le savoir. Ne dites pas que Dieu ne se fait pas voir aux hommes. Ne dites pas que des hommes ne peuvent voir la lumière divine, ou que c'est impossible dans les temps actuels. Jamais cela ne se trouve impossible. En accord avec Marc, Simeon maintient que notre but ferme et constant est de vivre l'expérience de l'Esprit de manière pleinement consciente. En effet, dans sa lettre sur la confession, il affirme qu'il n'y a qu'une seule exigence pour celui qui agit comme père spirituel, qui lit et délie. Une telle personne doit être dotée d'une conscience directe de l'Esprit-Saint, dans la perception de son âme, en esthésie psychise. Pour autant qu'il possède une telle conscience, des moines non ordonnés, ne faisons pas partie des ordres sacerdotaux, peuvent prononcer une absolution. Mais, dit Simeon, quiconque ne possède pas une telle conscience de l'Esprit, même s'il est prêtre, évêque ou même patriarche, n'en a pas le droit. C'est maximalisme un peu paradoxal. Mais on n'a pas dit que Simeon le nouveau théologien était hérétique. En ce sens, le point de vue fondamental de Saint Simeon le nouveau théologien apparaît comme n'étant pas si différent de celui de Saint Marc le moine. Marc, même s'il emploie des termes moins catégoriques que Simeon, affirme la nécessité de l'obéissance à un père spirituel. Simeon, non moins que Marc, reconnaît l'importance primordiale d'écouter la voix du Saint-Esprit en notre propre conscience. Pour tous les deux, l'obéissance et la liberté ne sont pas mutuellement exclusives, mais complémentaires. tous deux considèrent l'obéissance comme la porte à la liberté. Alors, de Saint Marc et de Saint Siméon, nous pouvons apprendre avant tout deux choses. La première, que nous ne sommes pas des esclaves, mais des enfants d'un roi, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et dotés d'une voix intérieure, personnelle à chacun de nous, la voix de notre conscience. La seconde, qu'il est périlleux de voyager seul. Chacun de nous a besoin d'un conseiller et d'un intercesseur, d'un père ou d'une mère en Dieu, qui ne nous privera pas de notre personnalité distinctive, mais que servira précisément comme gardien de notre liberté évangélique. Merci.